Comment vas-tu subvenir aux besoins de tes proches? Une question profonde également. Notre humanité, notre ignorance du lendemain, nos limites, nos inquiétudes veulent nous faire croire que cette question est la plus importante. Mais c'est faux également. Mes amis, la question la plus importante de la vie, elle concerne la mort. La Bible dit « Tu es né poussière et tu retourneras à la poussière ». Alors la question pour toi ce matin, et c'est la plus importante, quand tu te présenteras devant Dieu, que lui diras-tu? Parce qu'il va te poser cette question, pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Que dire à Dieu le jour où tu seras devant lui? Ces quelques minutes que l'on va passer ensemble ce matin tentent de répondre à cette question. La Bible, la révélation toute spéciale de Dieu, nous laisse une parole que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Et c'est peut-être le verset le plus connu des chrétiens. Vous l'avez sur votre feuillet, vous pouvez l'avoir aussi sur vos Bibles. C'est le suivant, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors je vous propose de travailler, de décortiquer ce verset pour en saisir sa profondeur. Alors juste avant, je vais remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce verset, merci pour cette parole qui nous vient de toi. Eh bien, donne-nous d'en comprendre, d'en saisir la profondeur. Et Seigneur, que ton esprit qui conduit toutes choses m'a conduit ce moment ce matin. Fais silence dans nos cœurs, fais silence dans nos raisonnements, Seigneur, afin que toutes choses soient rendues captives dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. La première personne à entrer en action dans ce verset, c'est Dieu. Et c'est notre premier point, Dieu. Et ce verset nous informe que Dieu aime. Dieu a tant aimé. Et nous l'avons chanté ce matin, nous en avons entendu parler. Et d'ailleurs, la Bible confirme l'amour de Dieu à plusieurs reprises. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous dit que Dieu est amour. Dans son essence, dans sa nature, Dieu est amour. Le psaume 86 appuie, « Toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. » Et un dernier verset, c'est Dieu qui s'adresse au prophète Jérémie en lui disant « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est une particularité du Dieu de la Bible, un Dieu qui aime, un Dieu de tendresse, un Dieu de pitié, un Dieu proche de sa création, un Dieu de relation qui aime. La Bible dit que l'amour de Dieu est éternel et universel. Il s'étend au monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Par conséquent, Dieu veut simplement te rappeler ce matin qu'il t'aime d'un amour éternel. Alors je répète, Dieu t'aime d'un amour éternel. Par contre, s'il vous plaît, ne sortons pas une phrase de son contexte. Qui connaît Zinedine Zidane ici aujourd'hui? Tout le monde, levez la main ceux qui le connaissent. Vous avez déjà entendu parler de lui, on ne le connaît pas personnellement. Voilà, on sait qui est. On sait qui est cette personne. Mais si je vous dis, Zizou, c'est le mec qui a mis un coup de tête. Point. Si on s'arrête là, on peut en déduire que c'est une personne hyper violente, impulsive, qui cherche à terrasser tous ses ennemis. Et c'est peut-être même quelqu'un qui fait un sport de combat. Il a mis un coup de tête. Mais sommes-nous objectifs quand on sort une phrase de son contexte? Non, il y avait un contexte précis, je ne vais pas revenir dessus. Dire de Dieu qu'il est amour, c'est vrai, le verset le dit. Mais limiter Dieu à ce seul attribut, c'est faux, c'est pas objectif. Et ça donne des dérives comme « on ira tous au paradis, Dieu nous aime », c'est pas objectif, dérive. Ou peu importe de croire ou non, tant que j'ai une bonne morale, tant que je suis un mec bien, ça passe. Dieu est amour, dérive encore. Et puis je peux continuer à faire ce que je veux, et puis de toute façon Dieu m'aime, dérive encore une fois. Il est important, mes amis, de regarder un verset en fonction de son contexte. Et là, on est objectif. La Bible décrit Dieu comme riche en bonté, en amour, en miséricorde, en patience, un Dieu de paix, un Dieu fidèle. Mais elle le décrit également comme un Dieu qui se met en colère, un Dieu qui ne tolère pas l'injustice et qui punit la faute du méchant. Alors le contexte proche de notre verset, les deux versets précédents, juste avant, nous disent Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus-Christ se réfère ici à un passage dans l'Ancien Testament où l'on trouve le peuple d'Israël en train de s'impatienter, de s'indigner contre Moïse et surtout contre Dieu. Le peuple se révolte contre Dieu. Conséquence, Dieu intervient en envoyant des serpents brûlants pour juger le peuple. Une histoire terrible. Alors oui, Dieu est amour, mais aussi, et ne l'oublie pas, Dieu est saint, Dieu est juste. Avant d'introduire le verset le plus connu de toute la Bible, eh bien Jésus-Christ nous rappelle la sainteté et la justice de Dieu. Dieu est saint, il ne tolère pas le péché, il ne tolère pas la rébellion. Et parce qu'il est saint, Dieu intervient avec justice. Ce matin, trois personnes m'ont donné leur prénom, donc du coup je vais les utiliser pour mon exemple. Guy, David, au fond, et Edith. Je ne sais plus, Edith, voilà. Imaginons qu'avec David, Edith et Guy, tous les quatre, on décide d'aller faire un cambriolage. On part en voiture, tous dans la voiture de Guy. Tous les quatre, on roule, on arrive à la Banque Populaire au centre-ville de Fréjus, il doit bien avoir une Banque Populaire. On est cagoulés, armés. Edith, c'est le chef de la bande. Et là, elle parle, elle dit, donnez-nous tous les sous, ouvrez les coffres, on récupère tout, les lingots d'or, tout, on vide tout. Alors on braque tout le monde, les mains sont en l'air, on les fait asseoir à genoux, etc. On les menace, on les terrorise. Ils nous emmènent vers le coffre, ils ouvrent le coffre, on vide tout, on récupère tout, et hop, on s'en va. Terminé. On a tout récupéré. La Banque Populaire est vide. Mais là, problème, à un moment donné, David a soulevé sa cagoule. Et du coup, on l'a reconnu. Et on se fait attraper tous les quatre. Et là, finalement, on a un rendez-vous devant le juge, devant le tribunal. On est tous les quatre devant le juge au tribunal. Et le juge nous rappelle tous les faits. Braquage, amas armés, etc. Menaces de mort, les armes, la cagoule, etc. Il nous rappelle tous les faits. Et là, il réfléchit et il nous dit « Non, mais je vois que vous avez des bonnes têtes. Puis vous êtes des mecs bien, vous allez le dimanche matin, vous allez à l'église. » Votre casier judiciaire est presque vide, vous avez des bonnes valeurs, non coupable. Voilà, non coupable. Voudriez-vous d'un tel système judiciaire? Alors les cambrioleurs, oui, vont dire oui, bien sûr. Mais les victimes? Non. Accorderez-vous de la confiance à ce type de juge? Non plus. La justice doit punir, elle ne peut pas faire qu'aimer. La justice doit punir. Si la justice humaine, imparfaite soit-elle, doit nous punir, imaginez la justice de Dieu. Un Dieu trois fois saint, parfaitement juste, connaissant chaque centimètre carré de nos vies. Il ne peut pas traiter le coupable comme innocent. Il doit intervenir avec justice. Alors oui, d'après ce verset, Dieu est amour. Mais avec le contexte, on comprend que Dieu est également saint, Dieu est juste. Alors passons au deuxième point. Dieu a tant aimé le monde. Il est ici question de l'humanité tout entière, l'homme avec un grand H. Et c'est notre deuxième point, l'homme. Alors j'ai cinq questions pour ce point. La première question c'est, que dit la Bible sur l'homme? Dans l'Ancien Testament, le roi Salomon fait le constat suivant. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Éphésiens chapitre 2 nous dit que l'homme est mort par ses péchés. Et dans la lettre aux Romains, nous lisons « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La Bible nous dit que le monde, les hommes, toi et moi, nous sommes pécheurs. Alors deuxième question, le péché c'est quoi? Alors imagine un jeu de fléchettes, la cible au milieu c'est Dieu. Eh bien le péché c'est cette fléchette qui ne tombe pas au milieu, qui manque la cible. Dès que tu manques la cible, dès que l'objectif n'est pas Dieu, eh bien tu tombes dans le péché. Alors une question qui en découle, c'est la troisième. Il y a bien une différence entre petit et grand péché. Alors, une différence entre une flèche qui tombe dans le 30 points et une flèche qui tombe carrément à côté du jeu. Alors ce raisonnement, il est complètement humain. Alors oui, si tu te compares aux terroristes, à côté d'eux, tu es irréprochable, il n'y a aucun problème. Mais on a tous un ami dont les valeurs sont excellentes. Et c'est alors toi qui deviens reprochable dans ce cas-là. Alors quelle est la référence? Ta conscience? Ton propre jugement entre le bien et le mal? Cet ami aux valeurs parfaites? Mais dans ce cas-là, on a tous des critères différents. Alors sur quel standard faut-il se baser? Mes amis, il existe un standard sur lequel nous sommes tous égaux, c'est celui de Dieu. Lui, le Créateur, c'est à lui seul qu'il nous faut nous référer. Le standard, c'est le suivant. Toutes les fléchettes qui ne visent pas Dieu sont imparfaites. Dieu est tellement saint que tout ce qu'il y a en dessous d'une sainteté parfaite est imparfait. Ce constat nous plonge tous inévitablement dans un statut de pécheur, le terroriste comme le voleur de bonbons. Chacun d'entre nous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors une quatrième question. Ok pour le péché. Ok, d'accord, on est tous pécheurs. Mais quelles sont les conséquences? La Bible déclare que le péché nous sépare, te sépare de Dieu. Le prophète Ésaïe confirme, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Une mauvaise pensée concernant mon collègue de travail, eh bien je pêche. Si je ne respecte pas mes parents ou je ne respecte pas mes enfants, je pêche encore contre Dieu. Si je manque de réflexion avant de me lancer dans un projet, je pêche encore. Quand je roule à 60 au lieu de 50, je désobéis à l'autorité, je pêche encore contre Dieu. Un film téléchargé illégalement, je pêche contre Dieu. Si je change l'intensité de mon travail en fonction de la présence ou de l'absence de mon patron, là encore, je pêche contre Dieu. Si je ne prends pas soin de mes proches, je loupe encore la cible et je pêche contre Dieu. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme pour chacun de ses péchés. Bien plus, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6. Devant Dieu, à cause du péché, je suis coupable et je mérite la mort. Alors, dernière question. Ok, le pécheur mérite la mort. Mais au bout de combien de péchés? La Bible dit, dans l'épître de Jacques, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Wow. C'est-à-dire que dans toute ta vie, si tu te manques une seule fois, s'il y a une seule fléchette qui manque la cible, tu es pécheur et tu mérites la mort. C'est très fort. Dieu exige la sainteté parfaite. Et en dessous de ce niveau, de cette référence, tu es pécheur. Imaginons que je ne péchais que trois fois par jour. Je pêche que trois fois par jour. C'est une imagination. Demandez à Mathilde si j'y arrive. Je pense qu'au bout de 10 minutes, c'est terminé. Mais seulement, imaginons, seulement 3 péchés par jour. Par exemple, je pars le matin et je roule à 60 au lieu de 50. Hop, premier péché. Toujours en voiture, j'envoie un petit texto. Deuxième péché. Puis j'arrive au boulot et là, mon patron m'énerve. Mauvaise pensée. Troisième péché. Clac, terminé. Au bout d'une heure, terminé. Et après, j'ai une vie parfaite, toute la journée. Seulement 3 péchés, imagination. 3 péchés par jour, ça fait environ combien de péchés par an? Question. Environ. 3 péchés par jour, combien par an? 1000. Voilà, 1000. Ça fait environ 1000 péchés par an. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Imaginez que je vive jusqu'à 80 ans. 80 ans. Hop, je meurs. J'arrive devant Dieu. Et Dieu me dit, Julien, pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Que diras-tu, Julien? Eh bien, écoute, Dieu, moi, je n'ai péché que 3 fois par jour. Quand même, c'est magnifique, c'est exceptionnel, ces statistiques. Ça ne fait que 80 000 péchés. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Lui qui n'accepte pas le moindre péché. Négatif. négatif, Julien, malgré tes seuls 3 péchés par jour. Alors ce verset nous présente un Dieu parfaitement amour, parfaitement saint. Et en face de lui, un constat terrible pour chacun d'entre nous. L'homme est pécheur, je suis, tu es pécheur. Pourquoi Dieu te laisserait entrer dans son ciel? Nous avons besoin du troisième point, la grâce. Et nous en avons parlé ce matin, la grâce. Dieu, l'homme, troisième point, la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça la grâce. Il a donné. L'homme, dans son histoire, a tenté sans relâche de revenir à Dieu par ses propres forces. On a construit une tour à Babel pour essayer d'atteindre le ciel. On édifie nos propres statues devant lesquelles on se prosterne, mythologie grecque, mère nature, des statues de Pierre, Paul, Jacques. Des fois même, je construis ma propre statue. On s'impose un régime spirituel particulier, par exemple 5 prières par jour, répétition de prières apprises par cœur, développement du Dieu qui est en toi, tai chi, un corps saint dans un esprit saint. On s'efforce par nos propres moyens de maîtriser le monde spirituel, spiritisme, astrologie, chiromancie, c'est la lecture des lignes des mains, médium, radiesthésie, etc., etc. On construit, on édifie, on s'impose, on s'efforce. De tout temps, l'homme a œuvré pour atteindre Dieu de lui-même. Un verset dans Éphésiens, nous l'avons entendu, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vos efforts, ne vient pas de vos bonnes actions. C'est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça la grâce, le cadeau immérité, un don gratuit. Un don gratuit, c'est un don gratuit. On a du mal aujourd'hui avec ce don gratuit. Même un parent qui fait un cadeau à son enfant, tiens, je t'offre un vélo, c'est gratuit, c'est cadeau. Mine de rien, on attend qu'il fasse attention quand même à ce vélo. Le don gratuit de Dieu, c'est un don gratuit. Dernièrement, j'ai reçu un coup de téléphone de Canal+. Ça remonte à quelques mois quand même. J'ai reçu un coup de téléphone de Canal+, et il me proposait une offre exceptionnelle. Monsieur Leleu, pour vous, c'est le bouquet sport, famille, cinéma, série, family, tout ce que vous voulez. Pour vous, ce bouquet, 19,90€. Une belle offre. Alors je réfléchis et je leur dis non, mais non, c'est bon, ça va. Même 1 euro, je ne l'aimais pas. Alors la dame, au bout du téléphone, elle me dit, elle réfléchit, elle me dit, écoutez, monsieur Leleu, je vais vous faire un cadeau. Ce pack, sport, cinéma, Canal+, série, family, etc., etc., ce pack complet, je vous l'offre, c'est cadeau, pour 14,90€. Et je lui dis, mais madame, vous m'avez dit que c'est cadeau, c'est offert, je comprends pas. Normalement, il n'y a aucune participation qui m'est demandée. Un autre verset. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Mes amis, la grâce de Dieu bouleverse nos raisonnements. Si tu penses que tes fautes ou ton passé peuvent être pardonnés via un pèlerinage, un nombre de prières, de l'argent, une fidélité à l'église ou autre, eh bien tu mets une claque à la grâce de Dieu. Si tu penses que Dieu te fera entrer dans son ciel à cause de tes bonnes actions, de tes efforts pour être une bonne personne, tu mets encore une claque à la suffisance de la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors ce qu'il faut que tu réalises ce matin, c'est que le Dieu d'amour parfaitement saint t'offre gratuitement sa grâce. Cela ne vient pas de toi. Mais alors qu'aucune participation ne nous est demandée, grâce, don gratuit, aucune participation ne m'est demandée, eh bien Dieu, de son côté, lui, il a payé le prix fort, la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est notre quatrième point, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, première question, qui est Jésus-Christ? La Bible déclare que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1. C'est le portrait, l'image parfaite de Dieu. Jésus-Christ est celui par qui Dieu se révèle. Personne n'a vu Dieu, mais Jésus-Christ le fait connaître. En Jésus-Christ et en lui seul, le Dieu invisible est devenu visible. Et quel privilège de réaliser que ce Dieu tout-puissant, immensément grand, a habité, marché et vécu parmi nous. Jean chapitre 1, nous avons une parole juste ici. La parole a été faite chair. Dieu s'est incarné, manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Un autre verset, on va dire imbattable, se trouve dans 1 Jean chapitre 5 et verset 20. Nous savons aussi, c'est le verset, nous savons aussi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alors qui est Jésus-Christ ? Il est le Dieu véritable, venu parmi nous dans la condition d'un homme, tout en restant pleinement Dieu. Miracle. Alors, deuxième question. Quelle est la raison de sa venue ? Pourquoi est-il venu ? Alors, écoutez bien. Jésus-Christ est venu payer pour nos péchés. Jésus-Christ est venu payer pour nos péchés. Le prophète Ésaïe confirme : l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, le péché de nous tous. Alors, j'ai une illustration pour comprendre qui est Jésus-Christ et quelle est la raison de sa venue. C'est l'histoire du roi viking. Le roi viking était un roi, fort, grand, puissant. C'était lui le chef d'un immense territoire. Il avait remporté de nombreuses guerres. Il avait mis son drapeau de partout. C'était lui le boss, le chef. Et depuis un certain temps, c'était la paix dans son territoire. Il avait tout vaincu. C'était lui le grand chef. Mais il y avait un petit problème qui se répétait chaque jour. Mais c'était léger, mais tout de même, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Il y avait un léger vol dans les comptes de l'État. Chaque jour, il y a une petite somme qui disparaissait. Et on ne comprenait pas. Alors le roi viking, ça commençait à l'énerver un petit peu, et il demande à ses ministres, ses émissaires, ses agents secrets, de fouiller de partout et de trouver le coupable. Alors les ministres, les émissaires, ils partent dans partout, dans tout le territoire, ils cherchent. Les jours passent, les semaines passent, et ils ne trouvent pas toujours qui est le coupable. Alors le roi viking commence à monter en pression, et il décrète que celui qui est coupable devra mourir. Celui qui est coupable devra mourir, c'est le décret. Il envoie toujours ses émissaires, les ministres, l'agent secret, etc. Tout le monde part. Et là, au bout de quelques semaines, on trouve le coupable. Le coupable est trouvé. C'est la mère du roi. C'est la mère du roi. Alors que va faire le roi viking ? Du coup, on se retrouve tous dans une grande arène. Tout le peuple est présent et le roi est là. Et la mère est amenée au milieu de l'arène. Elle est placée au milieu, sur une pierre, et le bourreau est là, prêt à frapper. Il attend. Et tous les regards sont braqués, sont tournés vers le roi viking. Que va faire le roi ? C'est le grand silence dans l'arène. C'est alors que le roi se lève. Il dépose sa couronne. Il enlève son manteau royal. Il descend les marches, une par une, lentement. Il se défait de son apparat royal. Le manteau, le sceptre, la bague. Il se défait de son apparat royal. Et il descend les marches, une par une, très lentement. Il arrive au pied de la reine et il avance. Il avance près de la pierre et près de la mer. Et là, il va se placer sur la mer. Il va couvrir la mer. Et à ce moment-là, il va dire au bourreau, frappe. Et le bourreau frappe. Il frappe encore. Et il frappe encore. Le roi meurt et la mer repart vivante et libre. Jésus-Christ, c'est bien plus que le roi viking. Jésus-Christ n'est pas roi d'un simple territoire. Il est le grand roi éternel, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, lui qui est égal à Dieu, lui qui est Dieu, il descend non pas d'une arène comme le roi viking, il descend du trône de Dieu, Il quitte la gloire du ciel. Il se dépouille de sa couronne et de son manteau divin et vient parmi nous. Le roi viking, lui, il paye de sa vie, loin d'être parfaite, pour le vol de sa mère. Alors que Jésus-Christ, lui qui n'a point commis de péché, une vie parfaite, il n'y a pas la moindre particule de péché dans toute sa vie. Eh bien, Jésus-Christ, à la croix, a payé le prix du péché de tous les hommes. Jésus-Christ, à cause de mon péché, à cause de ton péché, il se place dessus toi, il te couvre et il meurt à ta place. Et toi, tu ressors libre. Jésus-Christ paye de sa vie pour chacun de tes 80 000 péchés minimum. Le roi viking est mort, mais Jésus-Christ, lui, il est ressuscité. Les apôtres l'ont vu, ils ont parlé et même mangé avec lui. Les anges l'ont confirmé, la Bible l'a attesté. Plus de 500 personnes de l'époque affirment que Jésus-Christ est vivant. Des non-chrétiens comme Saul de Tarse l'ont vu et ils ont été transformés par cette rencontre. Et l'Église, aujourd'hui, est le témoin que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Voilà ce que le roi des rois, Jésus-Christ, a fait pour chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Cela nous amène au dernier point, la foi. Croire. Rappelle-toi la question que Dieu te posera. Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Que dire à Dieu le jour où tu seras devant lui? Eh bien, écoute, la foi, c'est la clé qui nous permet, qui te permet de entrer dans le ciel. Mais la foi, c'est quoi au juste? Alors la foi, déjà, n'est pas quelque chose de temporel. On prie avant le décollage d'un avion, ou on prie seulement pendant l'épreuve, pendant la maladie, quand les choses ne vont pas bien, ou bien on prie pendant une heure, le temps d'un match de hand de Saint-Raphaël. J'essaie de me mettre un peu dans la ville. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une foi temporelle. Ça dure une heure, ça dure deux minutes, terminé. On utilise Dieu seulement quand on a besoin, une sorte de génie. Cette foi-là ne sauve pas. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi intellectuelle. Alors les hommes sont pécheurs, ça j'ai compris. Jésus-Christ est Dieu, c'est ancré. Ça aussi j'ai compris. Il est mort à ma place, il est ressuscité, ok, j'ai capté. La foi intellectuelle, c'est croire en des faits, et ça s'arrête là. La foi s'arrête au cerveau, et elle n'implique rien d'autre. Cette foi-là, non plus, ne sauve pas. Alors la foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas. Jésus-Christ est le seul objet de ma foi capable de m'arracher du péché. Capable de me donner la vie éternelle. C'est la confiance en Jésus-Christ seul. Cette foi-là sauve. La Bible déclare que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils, celui qui a Jésus-Christ, a la vie éternelle. Alors, imaginez-vous un funambule. Un funambule qui veut traverser les gorges du Verdon. Alors, il y a deux falaises et il accroche son câble d'une falaise à l'autre. L'objectif, c'est de passer. Et là, on est tous ici présents, on va tous au Verdon pour admirer le spectacle. Alors, il s'installe, le câble est bien tendu, on est tous présents. Et là, il nous pose une question. Croyez-vous que je peux traverser et revenir sur mon câble? Là, on est tous avec lui, on lui dit, bah oui, c'est ton job, on est avec toi, on y croit. Donc, le mec s'élance, il y va tout doucement, il avance, et il revient. Magnifique. Et on est avec lui, on applaudit, et tout, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Et là, il nous pose une deuxième question. Mesdames et messieurs, croyez-vous que je peux traverser ce câble à vélo? Et là, on est encore avec lui. Vas-y, c'est toi, t'es un champion. On l'encourage. Il installe son vélo et il avance tout doucement. Il va à l'autre bout de la falaise et il revient. Il a réussi. On l'applaudit, on est heureux, c'est la fête. Il nous pose une troisième question, il enchaîne, il est chaud. Croyez-vous que je peux traverser debout sur mon vélo? Ah bah oui, vas-y. T'as tout réussi pour l'instant, vas-y, t'es un champion, on est avec toi. Et là, il s'avance, debout sur son vélo, tout doucement, il va jusqu'au bout, et il revient. Il réussit encore une fois. C'est magnifique, on l'applaudit, c'est là-haut là. Et là, il nous pose une dernière question. Croyez-vous que je peux traverser debout sur mon vélo, avec quelqu'un sur mes épaules? Et là, on est avec lui, oui, fonce, on est avec toi. T'es un champion, t'es notre champion. D'accord? Involontaire, s'il vous plaît. Personne. La foi implique un engagement personnel. La foi implique un engagement total. C'est un détournement de confiance. Avant, j'avais confiance en mes propres forces, en plein de choses. Et maintenant, ma confiance se place et se réoriente en Jésus-Christ seul. Alors Jésus-Christ n'est pas un funambule. Il est un rocher stable, solide, sur lequel tu peux bâtir ta vie. Il est le refuge pendant tes épreuves. Il te délivre des tempêtes de la vie. Chaque jour, il t'équipe de sa présence, de sa grâce, pour tenir bon face aux difficultés. Il te donne la paix, la joie. Il te fortifie chaque jour. Il te garantit d'être présent tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est l'exemple parfait que tu peux suivre. Es-tu prêt à monter sur les épaules de Jésus-Christ? Es-tu prêt à croire en lui? À placer ta confiance en Jésus-Christ mort et ressuscité pour toi? La question est importante, mon ami, parce que tu devras un jour te présenter devant Dieu. Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Que répondras-tu? Alors tu diras, parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Il est mort pour mes péchés. Il m'a couvert. Et c'est en lui seul que je crois. Et sur cette base, sur la seule base de la foi en Jésus-Christ, Dieu te dira, entre dans mon royaume. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, j'aimerais te poser 5 questions. Seulement 5 questions. Pour avoir part à cette vie éternelle, le paradis, vivre l'éternité dans la présence de Dieu, eh bien, il faut pouvoir dire oui à ces 5 questions. Mais dire oui sincèrement, avec le cœur. On va donc baisser nos têtes, s'il vous plaît. On va baisser nos têtes et on va fermer les yeux, rien de public, tout en silence. Baissons nos têtes, fermons nos yeux et répondons avec sincérité oui ou non, en silence bien sûr. Première question. Tu pèches inévitablement et c'est dur. Et ton péché te sépare de Dieu. Reconnais-tu aujourd'hui ton statut de pécheur? Deuxième question. Aujourd'hui, demandes-tu pardon à Dieu pour ce péché qui t'habite? Troisième question. Es-tu prêt à placer ta confiance entière en Jésus-Christ seul? Quatrième question. Es-tu prêt à renoncer à toi-même et faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie? Cinquième question. Veux-tu recevoir maintenant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Alors je vous invite à reprendre vos feuillets et à le tourner, à le mettre au dos. C'est une prière qui n'est pas une prière à apprendre par cœur, c'est une prière qui reprend un peu les points qu'on a vus ce matin. Et je vais lire cette prière à haute voix et je vous invite à la lire, vous, en silence. Je vais lire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir dans ma vie maintenant. Et merci pour ce désir qui vient de toi. Je suis pécheur. Avant, j'avais confiance en moi, mais maintenant, Seigneur, je me remets à toi. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je te reçois comme Sauveur et comme Seigneur. Aide-moi à me détourner de mes péchés et à te suivre. J'accepte maintenant le don de la vie éternelle que tu m'offres gratuitement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, j'ai deux mots pour conclure. Seulement deux mots. Le premier, c'est partage. Partage. Si Dieu t'a rendu capable de dire oui à ces cinq questions, eh bien partage. Et même s'il n'y a que trois questions auxquelles tu as pu répondre oui, partage. Parle de ce que tu as vécu ce matin avec un frère ou une sœur de l'Église. Avec moi, ou avec Steve, qui va bientôt revenir, j'imagine. Mais parle de ce que tu as vécu. Partage. Le deuxième mot, c'est nourris-toi. Nourris-toi, oui. Avance, nourris-toi de Dieu au travers de la prière, au travers d'une vie d'Église, au travers de la lecture de sa parole, la Bible. Tu veux connaître Dieu ? Ben, la Bible. Tu veux connaître le plan de Dieu pour toi ? La Bible encore. Nourris-toi de la parole de Dieu. Partage et nourris-toi. Mon désir pour toi, c'est que toi aussi, tu puisses t'identifier dans ce verset. Car Dieu a tant aimé Julien, ça c'est mon propre témoignage, car Dieu a tant aimé Julien qu'il a donné son Fils unique afin que Julien ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.